Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un journal intégralement consacré, bien entendu, à l'actualité en Ukraine. L'Australie qui joint les États-Unis et l'Union européenne pour sanctionner personnellement le président Vladimir Poutine. La Russie qui a, de son côté, opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU déplorant son invasion de l'Ukraine. Alors, la situation en Ukraine pour aujourd'hui, je vous le disais en titre, hein, journal intégralement consacré à cette actualité. L'armée russe est donc aux portes de Kiev, la capitale ukrainienne. Et au deuxième jour de l'attaque russe, eh bien, les blindés ont un seul objectif, prendre la ville et essayer de s'emparer du pouvoir. Le point avec Stéphane Sio, il est le correspondant de RFI sur place.
Alors, j'ai jamais vu en 8 ans à Kiev la cité aussi calme. Je suis arrivé il y a à peu près 2 heures en revenant d'Ukraine de l'Est et je n'ai jamais vu une ville sans embouteillage, sans voiture. C'est quelque chose d'absolument unique. On a traversé la ville en quelques minutes. Alors donc, je confirme, il y a bel et bien un exode, hein, parce que comme nous sommes arrivés, il y avait énormément de voitures qui sortaient de la ville. On voyait à travers les vitres des enfants, des sacs. Donc on voit que c'est des gens qui ont décidé devant l'avancée de l'armée russe d'aller se mettre à l'abri, parfois à la campagne en dehors de Kiev, où ils ont des dachas, ces petites maisons, ou bien parfois un petit peu plus loin. Et puis dans le centre-ville, il n'y a quasiment personne. Je viens d'aller faire un tour dans le quartier où j'habite. Il y a juste 2 patrouilles de police, quelques personnes qui vont vérifier si les abris antiaériens sont bel et bien ouverts. Il y a un silence qui est extrêmement inquiétant et on voit qu'il y a une ambiance très particulière. Et puis, donc voilà, la ville se prépare à une nuit un petit peu particulière. Il y a un couvre-feu, le couvre-feu qui va durer jusqu'à 7h du matin. Et là, il n'y a aucune possibilité de sortir dans la rue. La police est vraiment sur les dents parce que les combats commence vraiment à se rapprocher, pas encore du centre-ville, mais des quartiers périphériques.
Voilà, donc c'était Stéphane Sio en direct pour RFI, en direct de Kiev. Donc Stéphane Sio, on vient de voir donc, la situation est donc confuse dans le pays aux abords de la capitale. La situation n'est pas plus claire en dehors de la métropole principale. Écoutez ce reportage à Zaporizhzhia sur les conditions actuelles dans le pays. C'est par Anastasia Bicchio.
Des enfants jouent avec de gros ballons de gymnastique. Les adultes consultent leur téléphone, tentent d'appeler leurs proches, mais en sous-sol, les communications passent mal. Une grande pièce avec de la moquette colorée a été aménagée. Des chaises, quelques réserves d'eau, des vêtements jetés dans un coin. Une élue locale prend la parole dans le brouhaha.
Il y a des informations sur des tirs du côté d'un quartier est de la ville, mais qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Nous ne savons pas de façon précise.
L'alerte passée, les gens sont invités à retourner chez eux. Cette grand-mère était descendue avec sa petite fille.
On se tenait prêt depuis hier, on attendait le signal, on avait ramassé quelques affaires, des petits sacs à dos avec le strict nécessaire pour l'enfant, pour moi, et on a attrapé au passage des biscuits parce que ma petite fille n'a pas eu le temps de déjeuner. Elle était malade hier, on s'est couché tard, on était très inquiets, c'est très difficile. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Toutes les demi-heures, je me réveillais et je mettais la télévision pour écouter les informations.
La grand-mère n'a pas l'intention de quitter la ville. Et si les Russes arrivaient ?
Je n'aimerais pas, mais je pense qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Mais vraiment, je n'aimerais pas. Je suis ukrainienne. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il nous reste à espérer que nos garçons ne les laisseront pas passer jusque-là.
Le gros des combats se concentre à une centaine de kilomètres plus au sud.
C'était Anastasia Bicchio, donc pour RFI. L'Australie a annoncé une nouvelle série de sanctions à l'encontre de 8 oligarques russes et de 339 membres du Parlement russe qui, selon la ministre des Affaires étrangères Maryse Payne, sont des falsificateurs et des falsificateurs politiques et ils ont instigé l'invasion de l'Ukraine. Elle a également déclaré que des personnalités clés du gouvernement biélorusse qui encouragent l'invasion ont également été ciblées, ajoutant que l'invasion est une violation flagrante du droit international et la violation la plus flagrante de la souveraineté et l'intégrité territoriale que l'Europe ait connue depuis des décennies. On écoute Maryse Payne.
It is an exceptional step to sanction leaders, but this is an exceptional situation. We need to be absolutely clear. Vladimir Putin has unparalleled personal power over his country. And he has chosen to go to war against a neighbor that posed no threat to Russia.
He will be personally responsible for the deaths and the suffering of innocent Ukrainians.
Il est 13h06, la Russie de son côté a opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait donc condamné cette invasion de l'Ukraine par Moscou. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a présidé le vote et a été le seul membre à rejeter la résolution mettant un terme à cette dernière, car la Russie détient le droit de veto étant un membre du siège avec un siège permanent au Conseil de sécurité. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis sont les nations qui se sont abstenues de voter. Les votes ont montré une opposition significative et donc pas totale à l'invasion par la Russie de son voisin, qui est donc moins capable militairement. Écoutez les propos de l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia.
11 votes in favor, one vote against, three abstentions. But the draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the Security Council.
Voilà donc pour l'ambassadeur russe aux Nations Unies. Écoutez également Jens Stoltenberg, c'est le secrétaire général de l'OTAN.
À l'issue de notre rencontre d'aujourd'hui entre dirigeants de l'OTAN, nous avons voulu envoyer un fort message d'unité. Nous devons être ensemble non seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Nous nous sommes mis d'accord sur un communiqué ferme. Nous appelons la Russie à arrêter l'attaque sur l'Ukraine et à retirer ses forces. Nous allons également continuer à fournir un soutien à l'Ukraine et à renforcer notre présence dans la partie est de notre alliance. Le but est de s'assurer qu'il n'y ait pas le moindre doute sur notre préparation à défendre l'un de nos alliés. Tout cela, avant tout, dans le but de préserver la paix, d'éviter une attaque et d'éviter que la guerre en Ukraine ne touche également l'un des alliés de l'OTAN. Car nous sommes tous bien conscients que l'attaque russe sur l'Ukraine est bien plus qu'une attaque sur l'Ukraine. C'est aussi une attaque contre l'ordre sécuritaire en Europe. C'est pour cela que nous le prenons aussi sérieusement.
Voilà donc les propos de Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN. L'Union européenne a déclaré qu'elle avait donc accepté de geler les avoirs du président russe Vladimir Poutine, mais également du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ainsi que des sanctions. Donc c'est des sanctions envers ces deux personnalités pour l'invasion de l'Ukraine. Le chef politique de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, explique ces sanctions.
So President Putin and Foreign Minister Lavrov are in the list of sanctioned people, together with the remaining members of the Duma who are supporting this aggression, and also with relevant members of the Russian Security Council. You know very well that this is an important step. Let me flag that the only leaders in the world who are sanctioned by the European Union are Assad from Syria, Lukashenko from Belarus, and now Putin from Russia.
Voilà donc les propos de Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Ah, par contre, il y a une des propositions qui a été bloquée, c'est le fait de bloquer tout paiement international via la plateforme de paiement SWIFT. Ça a été rejeté pour le moment par les leaders européens, notamment l'Allemagne et l'Italie. Écoutez le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire.
SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. SWIFT, c'est ce qui permet de bloquer l'accès des institutions financières russes à tout établissement financier dans le monde, ce qui empêche tout paiement de quelque bien que ce soit venu de la Russie ou à destination de la Russie. Nous disons très clairement que toutes les options sont sur la table. Il reste que quand on a une arme nucléaire financière entre les mains, on réfléchit avant de l'utiliser. Certains États membres ont fait part de réserves. La France ne fait pas partie de ces États. Je tiens à le dire avec beaucoup de clarté. Mais la France a la présidence de l'Union européenne, donc elle tient compte des réserves qui peuvent être formulées. Nous allons évaluer avec la Banque centrale européenne, avec la Commission européenne, les conséquences de l'utilisation de cette arme nucléaire financière. Et je tiens à dire que cette évaluation ne va pas être faite dans les jours, dans les semaines qui viennent. Elle va être faite dans les heures qui viennent. Je crois que c'est aussi la preuve de notre totale détermination à frapper au cœur le pouvoir de Vladimir Poutine.
Et c'était Bruno Le Maire, le ministre donc de l'économie français. Les Nations Unies affirment que des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début donc, de l'assaut russe. C'est un avertissement sur le nombre de réfugiés qui fuient donc, vers des pays voisins. Un nombre qui pourrait atteindre 5 millions. La population ukrainienne, je vous rappelle, est de 44 millions. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré que plus de 50 000 personnes avaient fui vers la Pologne et la Moldavie et que beaucoup d'autres étaient encore en mouvement. Le chef de l'aide donc de l'ONU, Martin Griffiths, a quant à lui déclaré que les agents s'efforçaient d'apporter de l'aide à ceux qui en avaient besoin. On l'écoute.
Some hours ago, there were 50,000 people who had gone into Poland and 20,000 into Moldova. I think those are UNHCR numbers, IOM numbers. The delivery of assistance to those in need are going to be partly to those who are displaced, but also partly those who remain in place but need help, and we'll be working through local partners.
Voilà, donc le chef de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths. Écoutez également les propos d'un des maires d'une des villes en Pologne où un des camps va être installé pour accueillir l'exode donc qui arrive d'Ukraine. On écoute donc l'un de ces maires.
Notre ville est à la hauteur de l'ampleur de la tâche. Przemyśle est un point de passage important et notre rôle est de prendre en charge ces personnes une fois qu'elles ont traversé la frontière. La Pologne est aujourd'hui pour eux le premier endroit en lieu sûr. On estime que 4000 à 5000 personnes sont passées par cette gare depuis hier. Nous leur avons fourni tout ce dont ils avaient besoin, de la nourriture, de quoi boire. Ensuite, s'ils le désirent, ils peuvent continuer leur chemin vers leur destination de leur choix. En tant qu'administration locale, nous coordonnons l'aide, mais les citoyens sont aussi impliqués. Hier, par exemple, une trentaine de personnes se sont retrouvées sans abri, des femmes et des enfants principalement. Eh bien, ils ont trouvé refuge chez des familles de notre ville. C'est un très beau geste. Ce n'est pas facile d'accueillir des inconnus sans avoir peur, mais c'est un devoir parce que ces personnes fuient quelque chose d'horrible, ils fuient la guerre.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la situation en Ukraine à l'heure actuelle. Pour conclure ce journal, on va quand même avoir quelques bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle du jour, c'est une large levée des restrictions du Covid à travers le pays, alors que la vague Omicron s'atténue. Plusieurs juridictions ont donc annoncé l'assouplissement des mandats pour le masque à l'intérieur. En Nouvelle-Galles du Sud, dans le Victoria ou encore dans l'ACT, le port du masque est toujours obligatoire que dans un certain petit nombre d'endroits à haut risque, comme les transports publics, les établissements de soins pour les personnes âgées, les aéroports ou encore les hôpitaux. Il y a des exceptions aussi pour quelques élèves, dont le Victoria et la City, qui devront garder leur masque dans les écoles. Pour l'instant, le Queensland devrait assouplir ses règles donc de masques et ses limites de densité la semaine prochaine. Par contre, le mandat pour les masques reste toujours en place en Australie occidentale, en Tasmanie et en Australie du Sud, ainsi que dans le territoire du Nord. Allez, coup d'œil météo à 13h14 à travers le pays. À Perth, il fera 33 degrés aujourd'hui. Adélaïde, vous aurez 30 degrés. Melbourne, 27. Hobart, 20. Il fera 22 degrés à Canberra, 26 à Sydney. Il fera 25 degrés à Brisbane, 36 à Cairns et 31 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, l'Australie qui se joint aux États-Unis et à l'Union européenne pour sanctionner personnellement le président Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, parmi un grand nombre de personnalités qui ont été donc sanctionnées par l'Union européenne, les États-Unis et donc l'Australie. La Russie, de son côté, a opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU déplorant l'invasion de l'Ukraine. 13h15, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Programme en français. Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.